RMC.
J'ai eu une vision il y a quelques temps, mais je pense que cette année va être la bonne année.
Where is the casque for John?
Quand une porte est entrouverte, il reste à nous de l'entrouvrir grande ouverte.
After Lyon,
Thibaut Giangrande.
Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'After Lyon, le podcast qui débat de l'actu de l'OL toutes les semaines. C'est dispo sur vos applis RMC, RMC Sport, sur vos plateformes habituelles. Si vous préférez, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Vous ne raterez aucun épisode de votre podcast After Lyon. Pour débattre des remplaçants lyonnais, on a convoqué l'équipe type de l'After Lyon. Coach Courbis, salut Roland.
Salut les amis et salut à tous.
Et en direct de Lyon, Edouard G. Salut Edouard.
Salut coach. Salut, salut coach de podcast Thibaut. Et bonjour à tous.
Quatrième match de suite sans victoire, un partout contre Nantes ce week-end. C'était pas terrible avec les titulaires. Ça a été bien pire quand les remplaçants sont entrés. Dembélé, Aouar ou encore Thiago Mendes, Laurent Blanc. Se trompent-ils en les faisant encore jouer? C'est notre débat de la semaine. Sur les 28 premières journées de Ligue 1, les remplaçants lyonnais ont été décisifs 7 fois seulement sur les remplacements, que ce soit des buts ou des passes décisives. C'est infime évidemment. Contre Nantes, Laurent Blanc a fait entrer Jefinho et Cherki à la 58e minute, puis Dembélé, Aouar et Thiago Mendes sous les sifflets du Groupama Stadium pour un dernier quart d'heure assez catastrophique. Écoutez la réponse du coach à un journaliste qui lui dit que l'OL a été moins bon après les changements.
C'est grave ce que vous dites, mais c'est la réalité.
En deuxième mi-temps, je me suis dit qu'en faisant rentrer des gens peut-être frais, ça allait nous permettre de nous procurer des occasions sur une équipe de Nantes qui était quand même assez défensive. Pas du tout. La deuxième mi-temps a été d'une pauvreté technique incroyable. Donc c'est très décevant. On est décevant, voilà.
Laurent Blanc déçu, décevant, mais bon, au moins lucide déjà sur le constat. Coach, d'abord, t'as pensé quoi on a commenté le match ensemble sur RMC, des entrées d'Aouar, Dembélé et Thiago Mendes. T'as pensé quoi de leur quart d'heure de jeu contre Nantes vendredi?
Comme tout le monde, c'est-à-dire que ce sont des joueurs pratiquement qui ne sont plus à Lyon que physiquement, mais contractuellement, mais psychologiquement, ils sont déjà ailleurs. Leur séjour à Lyon aura été avec des hauts et des bas, et là ça se termine évidemment avec des bas. Par contre, ce qu'il faut maintenant, c'est se pencher, c'est ce que doit faire Laurent Blanc et Franck Passy, c'est se pencher sur ce groupe de joueurs avec la possibilité de gagner la Coupe de France. Pour la gagner, il va falloir être très bon à Nantes parce que ça ne sera pas simple du tout. Oui. Avec ce qu'on voit dans cette équipe de Lyon.
Où on a vu contre Nantes ce week-end aussi.
Oui, où il y a quand même des choses moyennes et d'autres très, très moyennes. Et ensuite, se servir des matchs de championnat pour justement préparer cette Coupe de France. Et là, Laurent, la question que je me pose... Et Doudou, il va peut-être m'aider, mais est-ce qu'il a déjà trouvé pour cet effectif-là la bonne formule et le bon profil et la bonne organisation? Personnellement, c'est une question-réponse, parce que pour le moment, si la bonne formule, ouais, c'est 4 défenseurs, 3 milieux, un numéro 10 derrière les deux attaquants, et souvent ces deux attaquants, ben, ils sont moyens et pas des plus complémentaires. Je sais pas. Là, pour moi, il y a débat.
Edouard, sur ces joueurs qui cristallisent beaucoup de choses dont on parle aujourd'hui, qui sont entrés un quart d'heure de la fin et qui ont eu une fin de match compliquée, c'est quoi leur saison finalement? Parce qu'il y a l'impression qu'on voit statistiquement, aussi c'est compliqué, hein, notamment pour Dembélé qui au moins mettait les buts les autres années, quoi.
Oui, Moussa Dembélé est passé quand même de 25 titularisations en 36 matchs l'année dernière avec 22 buts et 5 assists, hein, 5 passes décisives. Vous imaginez ce joueur et qui en est à seulement 8 titularisations en 30 matchs potentiels cette année, un but en août, un but en septembre et un but à Auxerre le mois de février. Voilà pour Moussa Dembélé qui est passé de la lumière à l'ombre. Alors c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu l'arrivée d'Alexandre Lacazette. Ceci explique peut-être cela. Mais en tout cas, voilà pour les stats de Moussa Dembélé qui ne sont vraiment pas reluisantes. Quant à Oussem Aouar, quand il n'est pas blessé, ça veut dire qu'il n'est que 17 fois dans l'effectif sur 28 possibles. Je parle que de la Ligue 1. 6 6 titularisations, 5 entrées en jeu. Ça fait quand même pas mal de matchs aussi où il reste la totalité sur le banc. Mmh. Un seul but à Montpellier en octobre et une passe décisive à 3 au mois de février. Faut bien noter aussi une donnée pour ces deux joueurs qui sont en fin de contrat au mois de juin. C'est vrai qu'il y a eu la volonté chacun d'aller au bout de leur contrat pour, dans leur nouveau futur club, toucher une prime à la signature. Donc ça a cristallisé un petit peu les ressentiments des supporters. Qui dit ressentiment dit sifflet, et ce sont désormais des joueurs qui rentrent au Groupama Stadium sous des bordées de sifflets, et du coup ça aide pas dans l'aspect confiance pour ces joueurs.
Roland, clairement, est-ce qu'il faut arrêter d'insister avec Aouar, Dembélé et Thiago Mendes que ces joueurs ne doivent plus jouer? Deux d'entre eux, ils sont en fin de contrat, ils ont la tête ailleurs. On les voit, on les a vus contre Nantes ce week-end. C'est vrai qu'il y a il y a le niveau des joueurs qui est une chose, mais il y a aussi l'envie qui démontre ou qui démontre pas, pour le coup.
Oui, et puis je rajouterai aussi, comme ça tout le monde est concerné, et leur utilisation. Un Dembélé dans une équipe avec des centres, et ils y sont, les joueurs capables de centrer. Il n'a pas pu non plus devenir mauvais au point qu'on se demande s'il n'a pas changé de sport. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Aouar dans un rôle de numéro 8 et non pas de numéro 10, il ne sait plus jouer au football. Alors que ces deux joueurs-là soient mis de côté, ok, mais il faut quand même être prudent. Imagine qu'il y a des blessés, là par exemple Kakré est blessé, on ne sait pas si la casette n'a pas rechuté et si on ne nous cache pas un petit peu cette rechute. Donc il faut faire gaffe, parce que la Coupe de France, c'est évidemment la chose la plus importante d'ici la fin de la saison. Mais si on se plante en Coupe de France parce qu'il y a 2-3 blessés qui ne pourront pas être remplacés, non, ça serait une énorme connerie.
Oui, parce qu'Edouard, il y a ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas hein, sur le terrain avec certains joueurs. L'impression, j'en parlais avec coach, et qui se dégage encore plus cette saison et c'était criant contre Nantes, on a l'impression qu'ils ne font pas énormément d'efforts. Comment ça se passe au quotidien? Parce que nous, évidemment, on les voit pas au quotidien. Qu'est-ce qui te remonte sur ces joueurs, sur leur état d'esprit?
Que ce ne sont pas des poids à l'entraînement, c'est des gens qui participent bien, qui sont motivés, qui ont de l'envie, qui sont là. En fait, voilà, c'est pas des joueurs qui comme un Jérôme Boateng qui lui carrément n'a plus de minutes de temps de jeu, mais voilà, ils sont investis encore. Alors après, il manque cette petite flamme lors des matchs. Alors vous allez me dire, s'ils font des bons entraînements mais qu'ils sont pas titulaires, c'est qu'ils en font pas assez, peut-être. Mais en tout cas, c'est pas forcément des poids morts comme on me dit c'est des bons mecs, ils sont là, mais est-ce qu'ils n'ont pas touché un petit peu leur plafond? Après, je note quand même quelque chose d'assez important, parce que ça avait marqué pour Kaltoko et Cambi, il l'avait dit quand il a signé du côté de Rennes. Franchement, quand vous rentrez sur le terrain et que vous êtes sifflé, ça vous cristallise un petit peu, ça vous crispe forcément, donc ça rajoute un petit peu des choses. Et puis fatalement, il y a un moment donné, on a forcément la tête ailleurs, même si on ne veut pas y croire et qu'on se dit on donne à fond à l'entraînement. Mais en tout cas, à l'entraînement, ils donnent tout, ils sont là, ce ne sont pas des poids qui vraiment alourdissent les séances, quoi. Ils sont là, quoi, en fait, mais pas assez pour être titulaire.
Tiens, coach, toi, t'es à Lyon, on te dit, vas-y, fais l'équipe. Qu'est-ce que tu fais avec cette équipe-là, ces joueurs, l'organisation, qu'est-ce que tu fais?
Il y a plusieurs organisations, mais disons, allez, on en sélectionne deux. En tout cas, je ne joue pas en 4-3-3 ou en 4-3-1-2. Première organisation, trois arrières centraux, et de droite à gauche, Diomandé, Lovren et Lokeba. Où ça me paraît être très complémentaire. Les couloirs arrière-droit, comme indique, c'est un de mes préférés. Tagliafico sur le côté gauche. Les deux relayeurs récupérateurs, Tolisso et Kakré ou Le Penant ou Mendes. Et ensuite, la casette, Barcola. Et Cherki. Avec deux numéros 10 et un numéro 9.
Donc tu mets quand même Thiago Mendes dans le coup, pas loin de cette équipe.
On au milieu, il faut quand même qu'il y ait des gars qui se partagent le boulot. Et à ce moment-là, Thiago Mendes, c'est un joueur qui a quand même été titulaire au poste d'arrière central, titulaire au poste de milieu. C'est un garçon qui est un joker. Il peut remplacer n'importe qui à deux, trois postes. C'est quand même un gars précieux. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce gars. Puis en plus, ça n'a pas l'air d'un emmerdeur.
Ouais, Edouard, là-dessus, ce que t'as.
Oui, non, c'est ce que je disais pour les deux autres. Hein. Ouais. Franchement, c'est des bons gars, mais peut-être, coach, c'est toi qui as plus l'expérience des vestiaires. Est-ce que c'est finalement ce groupe trop des bons gars qui se parlent pas, qui, oui, des fois, alors qu'ils se parlent, ils communiquent pas forcément. Moi, j'ai discuté par exemple avec des joueurs de Chambéry qui avaient joué contre cette équipe au mois de janvier, et l'un d'eux me disait, souvenez-vous, cette équipe hein, en N3, qui est, alors certes, au final, c'est un triplé de Lacazette qui fait qualifier l'OL. On avait commenté le match ensemble, souvenez-vous, il y avait des moments donnés où on avait l'impression que c'était l'équipe de N3 qui donnait la leçon à l'OL. Et ce joueur me disait, mais on sent pas de groupe sur le terrain, on sent pas de communication. Ils s'engueulent pas, ils se replacent pas. Alors ça a un petit peu changé avec Lovren, avec Tolisso qui est revenu un petit peu à son niveau. Mais il y a de vie, quoi. Alors en fait, est-ce que ces remplaçants, c'est le poulet de l'œuf, est-ce que c'est eux qui envoie ce temps, ça fait la gramme bla, ou est-ce que c'est le groupe en général qui les fait être aspirés par le bas? Je rappelle que c'est l'une des nées que l'on voit régulièrement à l'OL depuis quelques temps. Là où à une époque, il y avait une espèce de cercle vertueux, dès qu'un joueur qui arrivait, il grimpait, et un Romain Feff, par exemple, à une époque arrivait et il progressait avec le groupe. Là, tous les joueurs qui arrivent, d'une certaine manière, ils sont aspirés par le bas, et donc les remplaçants aussi.
Roland. Alors, donc, une organisation, évidemment, qu'elle est importante. Je pense que l'organisation, puisque j'ai répondu à ta question, sincèrement, je la vois complémentaire. Donc après, la possibilité de mettre un 4-2-3-1, si par exemple, en cours de match, on a pu le voir dernièrement avec Aiz du côté de Lens, il fait un début catastrophique contre la Lanterne Rouge au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, tac, tac, tac. Deux, trois pions qui sont changés, et puis ça reprend le dessus. Mais en ce qui concerne dans cette équipe de Lyon, je pose la question, on fait des podcasts, on cherche les solutions, on se pose les questions. S'il y avait Guimarães, Paqueta et Memphis Depay, ça serait peut-être un peu moins compliqué, non?
Pour perforer des équipes, parce que c'est vrai que Nantes a quand même un peu refusé le jeu. Donc là, si les joueurs que tu cites, ils peuvent casser des lignes, ou en tout cas, à un moment donné, créer une brèche. Et là, il n'y a pas eu ça vendredi soir, comme dans un certain nombre de matchs. Alors, ce qui est rageant, je pense que pour le coach, donc là, je passe de Laurent Blanc, pour le staff en général, c'est qu'il y a des réactions, mais ces réactions sont de plus en plus timides, parce que la période qui précède le but, elle est intéressante en termes de jeu. D'ailleurs, le but vient après une action à peu près bien construite, mais pourquoi ils sont pas capables de faire ça sur plus que 5 ou 10 minutes, quoi, en fait, parce que là, ce match vendredi s'est arrêté à la 30e, quoi.
Oui, c'est clair, et à la limite, il a même changé dans le mauvais sens dans la dernière demi-heure. Et justement, pour conclure sur ce sujet, ces entrées compliquées et ces joueurs, est-ce que finalement le problème profond vers lequel ça nous ramène, est-ce que finalement Blanc il a pas de banc, il est obligé, c'est-à-dire que il a pas d'autre choix que de faire rentrer Aouar ou Dembélé ou Mendes. Est-ce que ça met en lumière finalement le problème d'effectif de l'OL, à ton avis?
Disons qu'il essaye de les relancer. Je pense que s'il y avait pas cette Coupe de France qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, donc dans une saison presque ratée, tu gagnes la Coupe de France, eh bien elle serait plus ratée du tout cette saison. Je pense que Laurent doit se dire, bon, je risque d'avoir des blessures, je vais essayer de relancer ces joueurs-là qui peuvent peut-être être précieux dans la demi-finale ou pourquoi pas dans la finale de cette Coupe de France. Et malheureusement, mais pour le moment, il est pas suivi par ces joueurs-là qui, au contraire, d'entrée, c'est plus supportable pour les supporters, je ne fais pas de jeu de mots. Et quand tu vois qu'ils n'ont même pas mis encore le pied sur le terrain et qu'ils se font siffler, c'est sûr que l'atmosphère et l'ambiance là, de cette fin de saison, heureusement qu'il y a Mademoiselle Coupe, en espérant évidemment qui n'est pas une blague du côté de Nantes, parce que gagner à Nantes, ce n'est pas encore fait. Hein.
En fait, ces joueurs, ils auraient dû jouer à Paris, coach. C'est-à-dire qu'à la fin du match, ils ont beau être mauvais, ne pas venir saluer, ça siffle plus même. Enfin. Oui, Edouard, tu voulais rajouter
le juste une. Le problème de Lyon, c'est que surtout, c'est des jeunes qui doivent, et ça, coach, peut-être que tu vas en dire mieux que moi, c'est Laurent Blanc qui le dit, faire enchaîner 10, 11, 12 matchs de ce niveau à des jeunes qui sont encore plus ou moins en post-formation, les Barcola, même les Cherki, même Le Penant, quoi. Qu'un Le Penant qui arrive de camp soit titulaire presque indispensable au milieu de terrain, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors c'est très bien, mais ça veut dire aussi que ces jeunes sont en apprentissage continu et ben, qu'à un moment donné, ben, y a des hauts, des bas, il y a malheureusement beaucoup de bas parce qu'ils ne peuvent pas tenir la distance en termes de physique à leur âge.
Je te dis, les comparaisons, je te les ai faites, comparons ce qui est comparable. Paqueta, Guimarães au milieu, c'est quand même des joueurs qui sont nettement au-dessus de ce que nous avons.
En tout cas, le projet, normalement, c'est avec Laurent Blanc la saison prochaine. Jean-Michel Aulas l'a confirmé ce lundi. Hein. Edouard, tu peux confirmer?
Oui, dans le Moscato Show, il n'y a pas de souci. Et puis j'étais en face de lui.
Il y avait un doute.
Hein. Non, on n'est pas surpris de ce côté-là. Alors, c'est peut-être une chance pour l'avenir, en attendant de savoir l'année prochaine de quel avenir sera fait au niveau Coupe d'Europe ou pas. Donc, on en saura déjà un peu plus le 5 avril prochain vers 23h. C'est que déjà, quelque part, on peut préparer avec un entraîneur une feuille de route avec des recrutements dès le mois de mars, ce qui n'était pas forcément le cas ces dernières années parce qu'on a changé beaucoup d'entraîneurs. Rappelons que depuis 2003, Laurent Blanc est le cinquième. Donc, ça fait quand même 2003, depuis 2019. En 4 ans, ça fait quand même beaucoup de monde et donc beaucoup de tactique, beaucoup de vision de jeu et donc beaucoup de joueurs et parfois beaucoup d'erreurs également.
Après, beaucoup de tactique, il y a eu Rudy Garcia dans l'entretemps où tu parles. Gratuit.
Ça, c'est gratuit.
Oui, totalement. Le programme en attendant la Coupe de France, la demi-finale, le 5 avril, il y aura le Paris Saint-Germain, le 2 avril. Et d'ici là, c'est trêve pour l'Olympique Lyonnais, ça va pouvoir bosser. Sans quand même les 5 internationaux espoirs.
Il y a le Paris Saint-Germain-Lyon, 3 jours avant la demi-finale.
Oui, le dimanche. Le dimanche 2 avril. Et ensuite, il y aura le dimanche, voilà, Nantes-Lyon le mercredi et le lundi, le dimanche 9 à 13h,
Lyon-Rennes. Exactement. Merci mon coach, merci Edouard.
Salut.
Merci.
À la prochaine.
À Jérôme, ciao, ciao. Thomas, merci à Charline et surtout un grand merci à vous d'avoir été là comme à chaque fois fidèle au rendez-vous. On vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast de la Fédération. Ciao tout le monde.
RMC After Lyon.